C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile.
I still have a dream.
Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du storytelling et des gestes barrières, de Netflix et du binge-watching au XXIe siècle, quoi. C'est pas pour dire, mais toutes ces histoires, à quoi ça sert? Et on recommence la fête tous les jours. De la brioche, des grillades, l'alcool des nonnes et
des miches.
Tous les jours, on chante, on danse, on chante, on danse. Et quand il n'y a plus d'argent, il fait de l'or comme s'il en pleuvait. Et on chante.
Salut, c'est Charles Cécile. On ne peut voir la lumière sans l'ombre. On ne peut percevoir le silence sans le bruit. On ne peut atteindre la sagesse sans la folie. Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans l'obscurité. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous emmène du côté obscur de la force, hein ? Me direz-vous, on ne va pas parler de contes alors. Hop, 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 hop. Mais une fois n'est pas coutume, je t'invite à aller chez les savants, enfin souvent les savantes d'ailleurs. Bernadette Bricout, Denise Palm, Nicole Belmont, Joseph Campbell, Amadou Ampateba, Marie-Louise von Franz, Paul Delarue, Nicole Verdier. Cherchez auprès d'eux quelques réponses et probablement de nouvelles questions. Il existe encore des gens qui croient que les contes sont mignons, gentils, mélange de loukoum et de petits lapins blancs, qui décrivent un monde où tout est beau, tout est gentil, tout est facile et très rigolo. Il existe encore des gens qui confondent merveilleux et bisounours, et qui croient que les contes servent à nous distraire de la réalité, du vivant, des enjeux de l'existence, des combats que chacun livre en lui-même pour s'ouvrir petit à petit à davantage de vie. Et pourtant, depuis presque 12 ans que j'enquête parmi les conteuses et les conteurs, ils n'ont de cesse de le dire. Bien sûr, les contes sont une merveille parce qu'ils nous invitent à nous émerveiller de nous-mêmes et du monde, mais ils le font de façon intègre, en montrant aussi les épreuves, les souffrances, les désespoirs à traverser, les alliances à contracter, les erreurs, les naufrages, les courages. Bref, en nous faisant rencontrer l'ombre, l'obscur, autant que le lumineux. Aujourd'hui donc, attention, je vous emmène à la rencontre de contes sauvages, de contes féroces et de la non moins féroce conteuse Angèle Goduchot. Alors, Angèle Goduchot, conte féroce, c'est le titre de ton spectacle ?
Oui, le vrai titre, en tout cas ce qui est écrit sur l'affiche, c'est « Vieux conte féroce pour enfants d'aujourd'hui ».
Ah oui, oui, oui. Bon, alors d'où ça vient ça, « Vieux conte féroce pour enfants d'aujourd'hui » ?
Bah, d'abord, j'adore ce mot, « féroce ». Parce que, voilà, « féroce », ça s'applique d'habitude à un animal, on dit un animal féroce. Donc voilà, il y a quelque chose de brut. Sans arrangement avec le réel, c'est pas méchant, c'est pas cruel, c'est juste vrai, comme sont vraies par exemple les paroles de Baba Yaga quand elle dit « si tu fais ce que tu dois, je te donnerai du feu, si tu ne fais pas ce que tu dois, je te mangerai ».
Ouais, d'accord. Mais alors, c'est pour les enfants ou pas pour les enfants, là, ce spectacle-là? Parce que moi, ça me fait hérisser les poils.
Pour les enfants, bien sûr, et c'est aussi pour les adultes, évidemment, parce que d'ailleurs, comme tu le sais, je n'ai pas 7 ans.
Ah bon?
Et non, je suis une dame, et que pour autant, je n'ai pas du tout l'intention de m'ennuyer le moins du monde. Alors, quand je raconte, eh bien, on pourrait dire que je suis désolée de le dire, mais c'est d'abord pour moi.
Ah oui, d'accord.
Oui, pour entendre, pour expérimenter les histoires que je partage. Le loup sur Weiler. Le soleil se couche. C'est la nuit et va commencer la séquence terrible. Ça va, vous n'avez pas peur? La porte est entrouverte. Le loup rentre sur la pointe des pattes, à pas de loup. Il rentre dans la nuit, il n'y voit rien du tout. Mais il tâtonne. La tête avec un bonnet, il se rappelle. C'est la tête du papa, on n'y touche pas. Mais la tête d'à côté, la tête tondue, ah, ça le tente. Il prend la tête, il la tête, il la croque. Comme une pastèque. En réalité, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu un sentiment d'urgence, quoi, avant de mourir, apprendre, rire, mais surtout ne pas perdre mon temps. Je crois que, aussi loin que mes souvenirs remontent, j'ai toujours détesté qu'on me prenne pour une enfant, même quand j'en étais une en réalité. Mais tu vois, enfant dans le sens, cette petite chose fragile, innocente et un peu débile, à qui on raconte des choses dégoulinantes de bons sentiments et surtout complètement déconnectée des grandes questions existentielles. Je veux dire, des grandes questions vitales que tout le monde se pose et encore plus les enfants. En tout cas, moi, je me souviens de me les être posées depuis très tôt. Donc, oui, évidemment, c'est pour les adultes et c'est
D'accord,
aussi
d'accord.
pour les enfants. N'y a personne. Mais quand même, tous les matins, un petit déjeuner royal est servi. Pareil à midi. Et le soir, un dîner aux chandelles. Chaque jour, son lit est fait de frais. Mais il travaille, s'occupe des oiseaux, s'occupe des chevaux. Mais il a beaucoup de temps et surtout, il a toutes les clés qui ouvrent toutes les portes, plus de 100 portes dans le palais. Derrière certaines de ces portes, il y a des trésors, de l'or, des pierres précieuses, mais surtout, derrière d'autres portes, il y a du sol jusqu'au plafond, des livres. Et Mythique, qui contrairement à ce qu'il a dit, sait très bien lire, s'empare d'un premier livre et il découvre que ce sont des livres de magie. Alors il apprend, il récite, il chante les formules de magie. Une formule, et il voit où sont cachés tous les trésors de la terre. Une autre formule, il voit où sont cachés tous les trésors de la mer. Une autre encore, fait apparaître des mains qui volent toutes seules dans les airs et qui vont chercher pour lui les livres les plus précieux, les plus rares. Et il apprend. Un jour, par hasard, en rentrant dans l'écurie, sa main flatte l'encolure d'un petit cheval. C'est une jument bleue pommelée. Il touche comme ça l'encolure et aussitôt,
la jument se transforme en princesse.
Princesse.
En princesse.
Comme ça.
Comme ça. Et la princesse dit, je suis la fille du roi d'Espagne.
En plus.
Oui. Elle lui dit, quand tu partiras d'ici, s'il te plaît, emmène-moi avec toi, tu ne le regretteras pas. Et puis elle lui dit, tu sais lire, alors apprends. Parce que tous ceux qui, avant toi, sont venus travailler ici, quand ils ont voulu repartir, regarde ce qui leur est arrivé. Et elle lui montre, à côté de la porte, il y a un clou, et puis des vieux tissus qui pendent. Elle lui dit, ça, ce ne sont pas de vieux tissus. C'est la peau des jeunes gens qui, avant toi, ont voulu repartir. Alors apprends la magie et entraîne-toi. Et elle redevient la jument bleue pommelée. Waouh ! La peau des jeunes gens qui ont essayé avant moi ? Alors il faut s'entraîner, se dit Mythique. Et il travaille. Avec cette formule-là, il apprend les secrets des végétaux. Avec celle-là, les secrets des animaux. Avec celle-là, les secrets des minéraux. Les secrets des grandes planètes. Il apprend à changer le plomb en or. Il apprend, il danse et il chante les formules de magie.
Aujourd'hui, le spectacle Vieux Conte Féroce pour enfants d'aujourd'hui avec Adrian Jordan à l'accordéon et la conteuse Anne Galgo-Duchaud aux histoires. Alors, dans cette aventure-là, vous êtes deux. Hein, vous êtes. Est-ce que tu peux me parler de ton collègue musicien et pourquoi lui ? Vous vous êtes rencontrés, voilà, plusieurs questions à ce propos-là. Hein. Comment vous vous êtes rencontrés ? Comment vous avez travaillé ensemble ? Enfin, qu'est-ce qui t'a amené à proposer ce spectacle-là avec Adrian Jordan.
Alors voilà, ici, voilà, on commence par ça. Il s'appelle Adrian Jordan. Il est musicien, accordéoniste, roumain, tzigane plus particulièrement, d'une famille de tziganes musiciens. Son père le destinait à un instrument sérieux au début. Le destinait à faire du piano. Et donc, lui a fait faire du piano pendant des heures et des heures. Et Adrienne témoigne de la difficulté d'être destinée à gagner sa vie avec un piano.
Parce que je crois que dans les familles roumaines tziganes, qui sont justement des familles de musiciens, voilà, ça ne rigole pas.
Ça ne rigolait pas du tout.
La pratique instrumentale.
Son père lui disait, tant que je ne te dis pas, tu t'arrêtes pas. Et donc, quelquefois, le père s'endormait. Et si jamais il avait le malheur de s'arrêter, il se prenait une tarte. Donc non, il disait que c'était pas du tout évident, jusqu'au jour où il a eu le malheur et le bonheur d'avoir un accident et de s'abîmer le doigt suffisamment pour que son père considère que pour le piano classique, c'était foutu, mais que bon, pour l'accordéon, ça allait pouvoir le faire. Donc voilà, Adrian Jordan, accordéoniste, on s'est croisé en Moldavie. Un été chez un autre musicien, chez Mihai Trestian, qui est le joueur de cymbalum, et on a vraiment bien sympathisé. Et puis on a parlé de cette éducation un peu à la dure et tout ça. Et quand un jour on m'a demandé si je voulais faire un spectacle sur le thème des droits de l'enfant, et que je me suis dit, quelle drôle d'idée de demander à une conteuse de parler des droits de l'enfant, quand tous les contes et toute la littérature orale racontent justement des histoires d'enfants qui vivent des mésaventures, qui vivent des épreuves, où leurs droits sont en général plutôt bafoués. Ah, je me suis dit, tiens, j'aurais bien envie de faire ça avec lui. Donc voilà, on s'est retrouvés, on a partagé nos histoires d'enfance, les chansons, les rondes, les jeux de cours de récré. On s'est aperçu, par exemple, que dans les berceuses, dans les chansons d'enfance, dans les jeux de cours de récré, il y a des choses carrément gore ou cruelles ou qui suggèrent des trucs pas très cool. Oh, je sais pas, moi...
Tu peux donner un petit exemple ?
Là, ce qui me vient, c'est pas du tout Zigane, c'est l'histoire du petit Quinquin, par exemple. C'est une berceuse du nord de la France, tu sais. Mon petit Quinquin, mon gros Rogin, tu me feras du chagrin si tu ne dors pas jusqu'à demain. Voilà, toute cette chanson, elle dit je bosse et maintenant il faut dormir. Et si tu dors et si tu me laisses bosser, tu auras du sucre. À gogo.
Alors, excellent, ça, le sucre pour la santé des enfants.
C'est ça. C'est bien connu. Quand je regardais les droits de l'enfant, il y a le droit de manger correctement.
Adrien, il y a un problème. Il y a un problème. C'est que tu vois, la fête comme ça tous les jours et de l'or comme s'il en pleuvait, au bout d'un moment, ça finit par se savoir.
Et alors ?
Les gens parlent. Tu sais, les cancans de village.
Et alors ?
Les cancans, tu vois, les rumeurs, ça se déplace d'une vallée à l'autre, et puis ça sort des Carpates, et puis ça voyage, et ça va jusqu'au palais du magicien.
Le magicien ?
Mais oui, le.
Ça craint.
Oui, parce que lui, quand il entend ça, forcément, il se doute. Alors il arrive. Bon, Mythique a appris beaucoup, c'est vrai. Et quand il sent arriver le mage, lui, il se transforme. Il veut voir sans être vu. Alors, il change de forme et il se transforme en âne.
Encore un âne ?
Ouais. Il n'aurait pas dû. Oui, parce que le mage, quand il voit cet âne, il le reconnaît tout de suite. Alors, il lui saute sur le dos, il prend une bride comme ça et puis il fait « Uuuh !» et il l'emmène jusqu'à la forge du maréchal Ferrand. Et au maréchal Ferrand, le mage dit « Tu vas me faire des fers pour cet âne. Je veux 100 kilos à chaque patte. » Le maréchal Ferrand dit « Maître, si tu veux mon avis, 100 kilos, c'est trop. » Et le mage lui dit « Je t'ai demandé ton avis, je te paye, tu te tais. » Et comme le travail ne court pas les rues.
Même dans les comptes.
Le maréchal Ferrand dit « Tu me payes, je me tais. » Et il se met au travail. Quand même, le maréchal Ferrand est surveillé par le mage, qui surveille si les fers sont bien faits et s'ils semblent peser lourd. Pendant ce temps-là, l'âne est accroché, sur le côté. Et comme c'est un âne, il est mignon. Et comme il est mignon, tous les enfants du village sont autour et disent « Oh, regarde, il est mignon! Oh, tu crois qu'on peut le caresser ?» Et l'âne dit « Détachez-moi !» Hein ?
Qui
a parlé ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Détachez-moi ! Détache. Tu crois qu'on détache ?
Moi, je détache pas, vas-y.
Je détache, puis je sais qu'il va se... Il y en a un qui le détache. À ce moment-là, à peine l'âne est-il détaché, pouf, il se transforme en ver de terre. Oh ! Crient les enfants. Elastico ! Le mage, qui est de l'autre côté et qui surveille le maréchal Ferrand, entend les enfants. Alors, il s'approche et il dit, qu'est-ce qui se passe ? Où est mon âne ? Et il y en a un qui dit « Il vient de se transformer, regarde, en ver de terre !»« En ver de terre, » dit le mage, « alors je me transforme en poule pour attraper le ver. » Le ver s'enfuit, la poule lui court après. Ouh ! Le ver se transforme en chat noir, le mage en chien pour attraper le chat. Il court. En passant près d'une rivière, le chat plonge dans la mare sous la forme d'une carpe. Le mage se transforme en brochet, poursuit la carpe sous l'eau. Alors la carpe s'envole sous la forme d'un pigeon. Le mage se transforme en épervier et poursuit le pigeon. Le pigeon rattrapé se transforme en vautour. Le mage se transforme en aigle pour poursuivre le vautour. Et il vole au-dessus des vallées, au-dessus des montagnes. Il traverse des pays, des rivières, des mers. Et le vautour est rattrapé. Un combat de plumes. forme en anneaux d'or qui se glisse aux doigts jolis d'une princesse.
La princesse ?
La princesse. Ça tombe bien, hein ?
Oui.
La princesse touche l'anneau, aussitôt, c'est mythique. Ils se reconnaissent. Ils sont contents, ils s'embrassent, ils se racontent leurs aventures. Mais à ce moment-là, à la porte du palais, le mage frappe. Il dit : j'avais un anneau d'or. C'était un anneau de famille, j'y tenais beaucoup. J'ai perdu mon anneau et j'ai vu votre fille, la princesse. Elle m'a volé mon anneau d'or. Le roi dit, doucement, je suis le roi d'Espagne, je ne suis pas le roi des voleurs. Ma fille n'est pas une voleuse non plus. Alors on l'appelle. La fille arrive et elle dit, oh oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai trouvé un anneau et je l'ai mis à mon doigt, mais je peux le rendre, bien sûr. Alors elle l'enlève de son doigt, elle le tend et elle le fait tomber. Oh, qu'elle saute ! À peine l'anneau touche-t-il le sol qu'il se transforme en grain de maïs. Le mage se transforme en coq pour picorer le maïs. Il ouvre le bec et le maïs se transforme en renard qui ouvre la gueule et le coq se transforme en loup qui ouvre la gueule et le renard se transforme en ours qui ouvre la... Non, l'ours soulève sa patte d'ours. Il la lève, puis la fait redescendre. Il écrase le loup et... le transforme en tapis de loup.
C'est pas pour dire avec Angel Gauduchot. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Ce sont plutôt des chansons ou des contes traditionnels, alors, ce spectacle-là ?
On est allé voir partout, voilà, dans ce qu'on raconte aux enfants, ce que les enfants se racontent les uns aux autres, dans les chansons, dans les histoires, et puis évidemment aussi des contes merveilleux, des contes traditionnels qui racontent quand même comment on grandit, comment on se... On affronte des grandes questions, des grandes forces. Oui, ce que tu disais tout à l'heure, comment la vie, c'est pas toujours rose. Et quelquefois, on y rencontre des dragons, mais enfin, les contes racontent qu'on peut les combattre.
Tu as dit tout à l'heure, oui, je raconte d'abord pour moi, pour cette expérience fantastique de rencontrer un récit, de le côtoyer, de s'y apprivoiser, d'apprendre, etc. Ok. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais est-ce qu'il y a aussi une envie de transmission, finalement ? Est-ce que ça s'appelle bien vieux conte féroce pour enfants d'aujourd'hui, non ?
Oui, bien sûr, ça n'est pas exclusif l'un de l'autre. Je dis que je raconte pour moi, mais je raconte aussi pour les gens qui sont là. De transmission, oui, comme un passage de témoin, comme pour partager non vraiment des réponses, mais plutôt des questions, dire aux enfants, on est humain ensemble et ça veut dire qu'on est sujet aux épreuves et aussi on peut découvrir en nous des ressources insoupçonnées, inespérées, des merveilles.
La conteuse Angèle Gauduchot.
Et puis, voilà, je peux te raconter une histoire.
Allez, une petite histoire.
Une petite histoire. Je racontais dans les vieux contes féroces, vraiment, il y a des contes de Grimm, il y a des contes collectés aussi par Alexandre Afanassiev. Un conte terrible qui est un conte grec, qui est l'histoire d'une mère qui veut donner son enfant au loup. Il y a des histoires différentes. Puis il y a une histoire que je raconte où, bon, voilà, la mère est morte. Et puis voilà, l'héroïne poursuit son chemin. Bon, je termine l'histoire, et puis il y a un petit garçon, j'étais dans une classe de CP, CE1, je crois. Un petit garçon qui me dit « Moi, j'aime pas, moi, qu'on meure. » Alors, je lui dis « Ben, ouais, je comprends. » Il me dit « Non, que tout le monde, que moi, je vais mourir, mes parents, les gens que j'aime, on va mourir, j'aime pas. » Ça me fait peur. Alors je lui dis, parce que je comprends, évidemment, c'est une des grandes questions, une des grandes peurs de l'humanité. On cherche tous des moyens de soit de ne pas y penser, soit de résoudre la question, soit, enfin, voilà, on est, évidemment, c'est une grande question. Et il me dit, alors il était très très tendu, comme ça, avec les poings crispés, et puis il me dit, oui, parce que je sais comment c'est quand on est mort. Alors je dis, ah bon? Il dit, oui, il y a un grand trou comme ça, carré, rectangulaire, et puis ensuite, on nous met dedans, et puis on referme, puis on est pris. Alors, je dis, c'était très intense comme manière de dire les choses. On est pris, il dit, P-R-I. Alors, je l'écoute, et puis je me dis, tiens, c'est bizarre qu'ils disent comme ça, P-R-I. Il est en CP, CE1. Je suppose qu'il doit savoir comment ça s'écrit, PRI. Et tout d'un coup, je réalise que si on met les lettres dans l'autre sens... Alors, je traverse la classe, je vais au tableau et j'écris R-I-P. Et je lui dis, c'est comme ça? Alors, il me dit, oui, P-R-I. Et je réalise que, bah oui, cet enfant-là, il regarde la télé, très probablement avec ses parents, il regarde des séries, et puis dans les séries américaines, il y a toujours un moment où on est sur la tombe, et puis il y a écrit « Repose in peace », R-I-P, voilà. Ah, alors je lui dis, mais ça, RIP, ça ne veut pas dire prix, ça veut dire, c'est une formule qu'on utilise pour honorer la mémoire des gens qui sont morts et puis aussi pour souhaiter bon voyage. Voilà, ça veut dire repose en paix, c'est un souhait pour la personne qui est morte. Il y a plein d'autres formules comme ça, je lui dis. Par exemple, j'en ai découvert une il n'y a pas longtemps qui dit que la terre lui soit légère. Alors il a eu un grand soupir comme ça, il m'a dit que la terre lui soit légère, oui c'est joli. Puis tout son... Voilà, ses mains se sont un peu décontractées. Bon, pourquoi je te raconte ça? C'est un peu féroce, cette histoire.
Non, c'est pour dire
mais c'est pour dire que voilà, la transmission, je ne sais pas ce qu'on transmet, mais on transmet le fait qu'on est des êtres humains et qu'on se pose tous des questions et que de temps en temps, on a toutes besoin de savoir qu'on n'est pas tout seul et que quand on ne peut pas passer par-dessus ou par-dessous et qu'il faut traverser, y a d'autres gens que nous qui l'ont fait et qu'on peut y arriver. Morenica mi meia, aman yo blanca nasi, y del sol del
Travessa mi meia, aman me vo con eios. Morenica, graziosica sos, tu morena, io grazioso, io jos pre.
Vieux contes féroces pour enfants d'aujourd'hui. Un spectacle d'Adrian Jordan à l'accordéon et écrit et dit par la conteuse Anne-Gaëlle Goduchot.
Mais d'ailleurs, en parlant de fin, tiens, ça me fait penser à une chanson, je ne sais pas si tu la connais.
Fais voir. Non, mais tu plaisantes. Tu plaisantes, Adrian, tout le monde la connaît. Ouais. Attends, recommence, tu vas voir. Attends. Un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Ohé, 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 matelot navigue sur les flots. Ohé, ohé, matelot navigue sur les flots. Adrian,
C'est une chanson française. Tous les enfants dans toutes les écoles la connaissent. Et je ne vois pas ce que tu as à redire avec cette chanson.
Mais c'est que tu ne connais pas la suite des paroles, hein, Gaëlle.
Mais il y a 36 couplets, je ne peux pas tout connaître.
Justement. Alors, au 19e couplet, ça fait comme ça. Au bout de 4 à 6 semaines, au bout de 4 à 6 semaines, les livres va à manquer, les livres va à manquer, ce qui veut dire, sinon plus rien à manger.
Bah oui, eh ben.
Alors dans le couplet d'après, au 20e couplet, ils vont tirer à la courte paille.
Et ça va tirer à la
Ah, oh là là, attends, je le sens mal ça.
Ils tirent à la courte paille pour savoir c'est lui qui sera mangé en premier.
Et c'est qui?
C'est le mousse.
Tu sais ce que c'est qu'un mousse? Un mousse, c'est un petit enfant. Déjà, il a 9 ans, 10 ans, 12 ans, et on l'envoie, il quitte son papa et sa maman, on l'envoie sur un bateau, il doit travailler. Il travaille du matin jusqu'au soir, c'est lui qui fait tout le sale boulot, et en plus, il va être mangé...
En premier.
Quoi ?
Alors, les enfants ont des droits, et il me semble hein, que le premier des droits, ce serait de ne pas être mangé.
Ouais, c'est important pour les enfants, ouais, c'est vrai, de comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls, effectivement,
ah oui.
Qu'ils sont reliés aux adultes.
La vie, ce n'est pas facile, mais ça peut être aussi magique, ça peut être aussi vraiment magnifique. Il y a une phrase très belle. Quand on parle de contes merveilleux, je trouve qu'il y a vraiment une méprise là-dessus. Ce que tu disais tout à l'heure, merveilleux, ce serait mignon, joli tout le temps. C'est pas ça, ils sont très rudes, ces contes féroces, je trouve ça bien, mais ils sont très rudes. Mais ils sont aussi totalement merveilleux. Ils parlent aussi de ça, de la merveille qu'est la vie. Et je ne suis pas sûre de mes sources, mais il me semble... me souvenir que c'était dans ce très beau discours d'investiture de Nelson Mandela, quand il est arrivé à la présidence de l'Afrique du Sud, il a fait un discours, si tous les présidents pouvaient avoir une pensée à cette hauteur-là, le monde serait probablement pas dans l'état dans lequel il est. Et en tout cas, il disait quelque chose comme... Évidemment, je vais paraphraser très mal, mais quelque chose comme la difficulté, le plus difficile n'est pas toujours de voir ce qu'on a de pas terrible, tous nos petits handicaps, tout le monde est à peu près d'accord, en effet, pour dire qu'il a quelques petits défauts, des petits cadavres dans le placard, des trucs pas terribles et tout ça. On est tous à peu près d'accord pour dire ça. Mais quelquefois, la plus grande difficulté, c'est de convenir qu'on est aussi merveilleux. On est aussi des vraies lumières. Et alors voilà la question dans ce texte, je me souviens, dans ce discours il y avait quelque chose du genre de dire qui je suis pour qui je serais pour dire que je suis une merveille. Et il répondait et qui tu es pour dire que tu ne l'es pas. Qui tu es pour dire que tu ne l'es pas. Et quelquefois, ça rejoint cette fameuse parabole. Je n'ai pas une culture biblique très importante. Je m'en excuse auprès des gens qui sont plus savants que moi. Mais il me semble qu'il y a une histoire comme ça dans la Bible, très, très, très jolie, autour de... On ne cache pas une lumière sous le boisseau. On la cache pas parce que si on la laisse simplement, tranquillement briller, elle nous réchauffe, elle nous éclaire, et puis elle éclaire les autres, et elle dit aux autres, vous aussi, vous pouvez sortir, mettre en œuvre dans le concret, dans le monde, votre lumière. Toujours est-il que, je dis ça parce que dans les contes merveilleux, il y a aussi ça. On s'en moque souvent. La modernité se moque beaucoup du beau dans les contes, comme si c'était cucu. C'est pas cucu, c'est beau. Et c'est quelquefois très dur à assumer ça. Le fait que chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, on est une merveille.
plus grand qu'une chanson. Leurs cœurs ne sont pas plus grands qu'une chanson. Merci.
Moi, en fait, ici, quand j'étais petit, ma mère, elle attendait un bébé, mais j'étais pas encore née.
Ouais.
Et il était handicapé et il est mort.
Bah, moi aussi, mon père, hein, mon père, c'est...
Ton père, il est mort. Alors, tu sais quoi? Il y a une chose qu'il faut que je vous dise. C'est intéressant. Un jour, je suis allée raconter de l'autre côté du monde, en Nouvelle-Calédonie. Et dans les tribus Kanak, en Nouvelle-Calédonie, quand tu arrives, on t'accueille et on te dit bonjour à toi et à tous tes ancêtres qui sont venus avec toi, avec tous les vivants et avec tous les morts. Et je me suis dit, waouh, c'est beau! Ça veut dire que quand j'arrive quelque part, j'arrive avec tout mon univers, tout mon monde, y compris les petits frères, les pères, les grands-pères qui sont morts, ils sont là quelque part avec nous.
Ayah hondir und humir is via klom ke wanatir ke tsale pahigal mai. Ayamam boy, dariamam mai, dariamayamam mai mai. Yamamam mai, dariamamam mai mai mai. Ay. Thank you.
Et les petites merveilles qui sont en face de toi en spectacle, tes spectateurs, comment s'est reçue toute cette histoire? Comment est-ce que là, on t'écoute, toi qui dis des choses jolies d'ailleurs sur ce que c'est que ce spectacle et puis aussi ce que c'est en fait que le conte merveilleux. Mais voilà. Mais du côté des spectateurs, tu as ressenti quoi? J'ai eu le plaisir de voir toute une série en fait qui a été donnée dans ville de l'agglomération nantaise. C'était plutôt à toi de le dire. Moi, je te pose la question. Comment tu as ressenti ça?
Eh bien,
comment eux l'ont ressenti aussi?
Déjà la forme, c'est-à-dire que Adriaan et moi. On a une manière de raconter. On raconte des histoires, mais on dialogue tous les deux. On se raconte nos souvenirs et on les partage avec les gens qui sont
C'était très ouvert.
Voilà. Donc, en fait, on interroge les gens aussi. Vous connaissez cette chanson et ça, vous avez déjà dansé sur « Je vais donner trois coups de couteau, coup de couteau, coup de couteau. Je vais donner trois coups de couteau, coup de couteau. Qu'as-tu donc fait à ta sœur, à ta sœur, à ta sœur ?» Enfin, on interroge.
En gros, les gens ont entendu la chanson, mais non pas forcément... compris en fait le sens vraiment de la situation.
En tout cas, on n'a pas fait attention. Donc c'est un dialogue en réalité avec les gens qui sont là. On rit, on plaisante de ces sujets graves pour pouvoir justement aussi les aborder. On s'amuse avec la modernité de ces récits. Moi, j'ai eu l'impression que les gens, enfants ou adultes, étaient sensibles à ces contes qui sont ni anciens, ni modernes, mais qui sont tout à fait intemporels. Mmh. Et puis, voilà, avec ce que ça charrie d'émotions, de rire et aussi de...
Quand j'étais petite, dans la cour de récré, on faisait une danse, c'était comme ça, tu sais, une ronde. Au milieu de la ronde, il y avait une fille. Et alors, on chantait comme ça, on chantait. Marie assise sur une pierre, sur une pierre, sur une pierre. Marie assise sur une pierre, sur une pierre. C'était simple, elle était censée éplucher des pommes de terre. Elle épluche des pommes de terre, pommes de terre, pommes de terre. Elle épluche des pommes de terre, pommes de terre. C'est joli. Alors, on était comme ça en rond, et puis il y avait un qui devait rentrer dans le cercle, c'était le frère.
Pour l'aider à éplucher les pommes de terre.
Oui, c'est ce qu'on croit au début, qui vient pour l'aider à éplucher des pommes de terre, mais pas du tout. Une fois qu'il est dans le cercle, tu sais ce qu'il fait? Il lui donne trois coups de couteau, coup de couteau, coup de couteau. Il lui donne trois coups de couteau, coup de couteau. Oh!
Quoi? À qui?
À sa sœur. Alors, on continue. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui rentre, c'est la mère.
Pour les séparer.
La mère rentre, elle dit, qu'as-tu donc fait à ta sœur? Je vais donner trois coups de couteau. Très, très bien. Et la mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui donne trois coups de couteau, coup de couteau, coup de couteau. Elle lui donne trois coups de couteau, coup de couteau. Incroyable. Alors là, il y a le père qui arrive.
Ah, enfin, l'autorité.
Oui. Le père rentre et qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne trois coups de couteau, il lui donne trois coups de couteau, coup de couteau. Après, il y a le grand-père, la grand-mère, les cousins, les tontons, les tatas. Thank you.
C'est pas pour dire avec Angèle Goduchaud. Aujourd'hui, le spectacle Vieux Contes Féroces pour enfants d'aujourd'hui avec Adrien Jordan à l'accordéon et la conteuse Angèle Goduchaud aux histoires.
Et il faut savoir que d'être maman, c'est pas facile. Regarde-moi par exemple. Quand j'étais petite, j'étais la petite fille chérie de mon papa. Et puis quand j'étais grande, j'étais la jeune fille chérie de mon chéri. Et puis un jour, tu tombes enceinte. Et là, tu deviens grosse, lourde. Et là, ça dépend des endroits et des époques, mais la plupart du temps. Autrefois, ça se passait pas très bien. Tu risquais même ta vie en donnant la naissance à cet enfant, alors t'avais pas trop envie, hein? Alors, mettons que tu termines vivante. C'est pas fini, il faut que tu t'en occupes. Il se réveille toute la nuit, il veut pas dormir. Alors, on le dit plus maintenant, mais quand j'étais petite, on disait aux filles, vous inquiétez pas, c'est difficile, mais il y a un truc magique, ça s'appelle l'instinct maternel. C'est-à-dire que l'enfant sort, hop, tu l'aimes. Ça marche pour les chats, 3 semaines. Ça marche pour les rouges-gorges, 11 jours. Pour les femmes, c'est pas obligé. Des fois, ton enfant sort, tu le regardes et tu dis, je l'aime pas. Bon, tu dois le protéger quand même. C'est comme ça.
Vieux conte féroce pour enfants d'aujourd'hui avec Adrien Jordan à l'accordéon et la conteuse Angèle Goduchaud aux histoires. Voilà, aujourd'hui c'est terminé pour cette émission. Voilà, vous avez tout à fait la possibilité d'aller sur le site c'estpaspourdire.fr, ce site-là qui reprend en fait toutes les émissions qui ont été enregistrées depuis une douzaine d'années maintenant. Voilà. Bon, Angèle, merci beaucoup. Au revoir.
Eh bien, il y a des chances qu'on se revoie un de ces quatre. Merci beaucoup, Charles-Cécile.
Et à bientôt.
Sainte Marguerite, endormez-moi cet enfant jusqu'à l'âge de 15 ans.
Tu te rends compte qu'on me chantait ça? Ça veut dire, si tu réfléchis bien, mon petit bébé, tu vas dormir jusqu'à ce que tu aies 15 ans. Et puis quand t'auras 15 ans, on te réveille et on te marie. Et tu te rends compte?
Quoi? Par 15 ans,
15 ans, c'est pas mal.
15 ans, c'est pas mal pour quoi faire?
Moi, se marier à 18, c'est trop.
Mais pour se marier, c'est pas mal, 15 ans.
15 ans, c'est pas mal?
Ça dépend.
Ah bon? Et ça dépend de quoi?
De la taille de tes pieds.
Hein? Ah oui. Non, je rêve, ça dépend de la taille de mes pieds.
Oui.
Je comprends pas pourquoi.
Il y a une tradition comme ça chez les Tziganes, qui dit que pour savoir si une fille est assez grande pour être mariée,
ouais,
on la sert sur une chaise.
Ouais, bon.
Un peu comme okay. Vous. Voilà, comme ça.
Ok, comme ça.
Et si ses pieds touchent par terre,
ouais,
un peu comme vous, comme ça, bah c'est qu'elle est assez grande pour être mariée.
Oh, les filles, vous avez les pieds qui touchent par terre?
Oui.
Donc, vous êtes bonnes à marier.
Ouais. I still have a dream.
Il était une fois.
Tu peux voir ce qui existe pas.
For your safety and comfort.
Vous êtes l'homme, tu peux pas voir ce qui existe.
Once upon a time.
Et le seul est sujet de la haute pièce.
Live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident. That one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners.
C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile. Oh, oh,
a dream.